quand j'ai épousé ma femme Bénédicte, je me souviens très bien de cette réflexion de ma belle-mère. Elle m'avait dit que j'étais le gendre idéal. C'est ce qu'elle avait dit à l'époque. Ok. Poli, attentionné, bien éduqué, voilà. Je faisais attention quand j'allais dans ma belle famille. Et tout ça, c'était quoi ? Tout ça, je dirais aujourd'hui que c'était que des masques qui volent en éclats assez rapidement avec la vie de famille, en fait. Avec le stress et la fatigue, il y a le côté obscur qui revient à la surface très rapidement. Le véritable, c'est même, je dirais, le véritable moi qui ressort avec la fatigue et le stress de la vie. L'expérience la plus dure que je n'ai jamais faite, je pense que c'est celle de devenir père. Parce que justement, le côté avoir des enfants a fait ressortir toute la colère, l'impatience, la frustration. Et ça a été, en tout cas pour moi, l'expérience la plus difficile que je n'ai jamais faite. Et pourquoi je me suis déguisé en Dark Vador ? Parce qu'un jour où ça dégénérait un peu dans la famille, c'était un peu tendu et j'ai poussé ma voix un peu fort, il y a mon fils Rémi, le plus grand, qui m'a dit « Père, je sens qu'il y a encore du bon en vous. » Réplique de Luke Skywalker à son père, Anakin Skywalker, devenu le tristement célèbre Dark Vador. Ok, je vois que vous connaissez, c'est bon, alors on va pouvoir s'entendre. Ok. Mon fils était plein d'espoir hein, quand il m'a dit ça, vraiment, père, je sens qu'il y a encore du bien, du bon en vous. Alors, on connaît tous le chanteur Renaud, son addiction à l'alcool est de notoriété publique, mais je dirais que les paroles de sa chanson vont bien au-delà de lui-même, et elles touchent en nous un ressort qui est de l'ordre de l'universel. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, on se reconnaît tous dans l'une ou l'autre tirade de sa chanson. Cette chanson, vous la trouverez au verso de la feuille qui vous a été distribuée dans le hall d'entrée. Il y en a encore sur la table, si vous pourrez les regarder. En tout cas, moi, ces paroles, elles me renvoient à toutes ces zones d'ombre qu'il y a dans mon cœur. Elles me renvoient à toutes les tentations que propose le monde. Elle me renvoie d'une certaine façon, tout simplement, à cette lutte qu'il y a dans mon cœur entre le bien et le mal. C'est le récit de Genèse chapitre 3 qui va conduire nos réflexions maintenant. Alors c'est un récit qui paraît naïf, très naïf, à la première lecture. Et il est tout en images, tout en symboles. Vous connaissez sans doute ça. Ça parle du premier homme, Adam, de la première femme, Ève. Et puis, il y a un espèce d'ennemi sous les traits d'un serpent qui est là. Et ce serpent va détruire toutes les relations. Il va détruire la relation entre Adam et Ève. Il va détruire la relation entre Adam, Ève et Dieu. Il va détruire la relation entre Adam et Ève et la terre. Tout va être cassé à partir de ce moment-là. Et donc, derrière cette naïveté apparente, en fait, c'est la question du mal, de la réalité du mal dans le monde qui surgit. Et on va voir aussi que le récit ne nous laisse pas, ne nous laisse pas seuls, ne nous abandonne pas. Le récit nous donne de l'espoir. Et c'est ce que je vous propose de suivre. On va d'abord regarder la réalité du mal dans le monde, et ensuite on va regarder la réalité de l'espoir. Ok ? Alors, je vais d'abord lire le texte de Genèse 3. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu ? » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi tu fais cela ?»« C'est le serpent qui m'a trompé, » répondit la femme, « et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. » Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » L'homme nomma sa femme Ève, vie, parce qu'elle est la mère de toute vie humaine. L'Éternel Dieu fit à Adam et Ève, à Adam et à sa femme, des vêtements de peau pour les habiller. Puis il dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point, avec ce récit, on est confronté à la réalité du mal qui nous concerne tous. Tout commence avec le verset 1. Au verset 1, c'est une mise en doute de la parole qui a été donnée par Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» Là, il faut avoir lu le chapitre qui est juste avant et on a conscience de ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit ça. Au contraire, dans Genèse chapitre 2, c'est la profusion, l'abondance. L'homme et la femme peuvent manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf d'un. Et là, que fait le serpent ? Il met l'accent sur ce seul et unique interdit. Il met le projecteur sur le fruit interdit. En fait, il veut faire passer Dieu pour un rabat-joie, alors qu'il y avait toute cette profusion de fruits possibles. Le serpent met en doute la parole de Dieu et il met aussi en doute la bonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, une fois que le doute s'est immiscé dans l'esprit d'Ève, le serpent la séduit avec un discours qui est mensonger. Alors c'est difficile de résister au serpent parce que vous allez voir que les paroles du serpent sont un mélange de vérité et de mensonge et que c'est vachement difficile de faire la différence entre ce qui est vérité et ce qui est mensonge. Après cette mise en doute de la parole et de la bonté de Dieu, on va regarder le discours mensonger du serpent. Mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Alors les demi-vérités, je voudrais vous signaler les demi-vérités qu'assène le diable ici. La première, quand il dit « vous ne mourrez pas », effectivement, ils ne vont pas mourir tout de suite. mais ils vont connaître la mort à la fin de leur vie, alors qu'en fait, s'ils étaient restés en communion parfaite avec Dieu, ils n'auraient pas connu la mort. Ils auraient pu rester dans le jardin d'Éden et continuer à bénéficier du deuxième arbre important, symbolisé par l'arbre de la vie. Ils auraient pu rester en communion avec Dieu éternellement. Et ensuite, on l'a vu à la fin du récit, Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden, loin des bénédictions de Dieu. La Bible appelle ça la mort spirituelle. Ça, c'est le premier mensonge du diable. Il nous fait croire que nos mauvaises actions n'auront pas de conséquences. Il nous fait croire qu'il n'y aura pas de conséquences. Mais il y en a, des conséquences. On finit toujours par payer. Première demi-vérité, vous ne mourrez pas. Deuxième demi-vérité, eh ben, lorsque vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le récit nous dit que leurs yeux se sont ouverts. Mais pour faire quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils se sont rendus compte qu'ils étaient tout nus. Qu'est-ce que la Bible nous dit à travers ça? Ici, la nudité n'est qu'une image de la honte et de la culpabilité. Et ça, le diable, pareil, le serpent ne leur avait pas dit. Quand on fait quelque chose de mal, on est sous le poids de la honte et de la culpabilité. On le sait qu'on a fait quelque chose de mal. Deuxième demi-vérité. Ça mine de l'intérieur, le mal. Troisième demi-vérité. Vous serez comme des dieux. Comme Dieu, pardon. Vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont choisi le bien et le mal, mais ils l'ont choisi à la place de Dieu. Et là, on est au cœur. On est au cœur du mal qu'il y a en chacun d'entre nous. C'est ce désir d'être l'égal de Dieu. Ce désir de vivre notre vie pour nous-mêmes, sans nous préoccuper de Dieu. Sans nous préoccuper du mode d'emploi qu'il nous a laissé pour bien vivre. Mais le problème, c'est qu'en désobéissant, eh bien, ils se sont érigés comme ennemis, comme concurrents de Dieu, à choisir entre le bien et le mal. Et en plus, eh bien, on est tout aussi mauvais qu'Adam et Ève pour effectivement choisir entre le bien et le mal. Trop souvent, on appelle bien ce qui en fait est mal, et on appelle mal parfois aussi ce qui est bien. Mais ça arrive moins souvent. On a plutôt tendance à appeler bien ce qui est mal. Le choix du bien et du mal, c'est la prérogative de Dieu. Et ça, le serpent ne leur avait pas dit. Vous voyez comment le serpent les a séduits par un discours trompeur, mêlant la vérité et le mensonge. Et ça ne s'arrête pas là. Je ne sais pas si vous avez vu à quel point Adam est minable derrière, dans la suite du récit. Vraiment minable. Quand Dieu vient le confronter à ses responsabilités, qu'est-ce qu'il fait Adam? Il fuit. Il fuit. Adam aurait dû être là pour s'occuper du jardin. Et où est-il au début? Il laisse sa femme toute seule se dépatouiller avec ce serpent qui l'embrouille. Est-ce que ce n'est pas typiquement masculin, ça, laisser les femmes... Enfin non, pardon. Ok. Et quand Adam finit par se pointer, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû dire à sa femme, mais surtout pas, Dieu il nous a dit de ne pas y toucher, il nous a dit de ne pas y manger, pas en manger de ce fruit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il en mange. Il en prend et il en mange. Sur ce, Dieu arrive et il demande des comptes à chacun. Et là aussi, vous avez remarqué à quel point Adam il est minable? Est-ce que vous l'avez remarqué? Franchement, il faut l'afficher ça. Hein. C'est anthologique. C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, j'en ai mangé. Vous vous rendez compte? Non seulement il accuse la femme, mais en plus il accuse Dieu. C'est de la faute de Dieu parce que tu as mis cette femme à mes côtés. Vous voyez? L'homme dans toute sa splendeur qui prend en charge ses responsabilités. Rébellion contre Dieu et lâcheté. Voilà où on en est. Au final, dans ce passage. Alors, la tentation, c'est pas le mal. Hein. Ce qui est mal, c'est de ne pas y résister. C'est d'y succomber, comme on sait tous si bien le faire. Par exemple, quand je reprends l'histoire de la colère avec mes enfants, dont je vous parlais tout à l'heure, lorsque je dois reprendre mes enfants, et il est normal en tant que parent que de temps en temps, je sois obligé de les éduquer et de les reprendre. Mais comment ça se fait que j'arrive pas toujours à le faire de manière équilibrée, de manière calme, sans jamais perdre le contrôle de moi-même? La Bible m'encourage à maîtriser ma colère. Maîtriser ma colère. Mais c'est là que le doute s'immisce en moi. Mais non, vas-y, laisse éclater ta colère, ça va te faire un bien, tu vas pas t'imaginer. Alors c'est vrai que c'est parfois la faute de mes enfants, hein. C'est-à-dire que quand ils désobéissent, il est peut-être normal qu'à un moment ou un autre, je mette un frein, un stop à leur désobéissance. Mais trop souvent, c'est pas le cas. Et mes enfants, ils payent pour quoi? Ils payent pour ma journée pourrie, mes frustrations accumulées, tout ce qui s'est mal passé. Et là, il y a une occasion en or, il y a un truc qui déraille, et là, je m'enflamme et j'explose. Je suis le seul ou... Ok, d'accord. Merci pour votre honnêteté, les amis. Ok. Et alors, là où en plus, séduction par un discours mensonger, pourquoi je m'enflamme? Parce que je sens que je vais aller mieux après. Mais est-ce que je vais franchement mieux après? Après, mais... oh mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ambiance pourrie dans la famille, les enfants qui pleurent, Béné qui... Voilà. Mauvais exemple. En tant que père, combien de fois j'ai été un mauvais exemple pour mes enfants? Alors là, on est en plein dans la réalité du mal, cette réalité qui fait mal. Mais on va continuer le texte, parce que vous allez voir que le texte ne nous laisse pas dans cette réalité du mal, le texte nous laisse dans la réalité de l'espoir. Alors, c'est peut-être pas si évident que ça, mais vous allez voir, alors j'ai rien inventé, c'est depuis des milliers d'années, tous les spécialistes de l'Ancien Testament et tous les chrétiens ont vu cette chose-là, d'accord, qu'on va voir ensemble. La réalité de l'espoir. C'est la structure du texte qui nous conduit, la structure du récit qui nous conduit à la réalité de l'espoir. Regardez, regardez cette structure en sandwich avec des termes au début et à la fin qui se répondent, et tout doucement on va progresser vers le centre du sandwich. Vous allez comprendre. Le jambon, voilà exactement, le jambon, la tranche de jambon. La tranche de pain, l'extérieur. Ça parle de jardin et d'arbres au début et de jardin et d'arbres à la fin. Ok ? On continue. Ça parle de connaître le bien et le mal et de prendre le fruit et d'en manger au début et à la fin, exactement dans les mêmes termes. Ce n'est pas un hasard. Les poètes de l'Ancien Testament travaillaient beaucoup avec les jeux de répétition et vous allez voir à quel point c'est fort. Ensuite, Adam et Ève se font des vêtements en feuilles de figue, mais à la fin, Dieu est bon avec eux, il leur fait des vêtements en peau de bête. Ensuite, le Seigneur appelle Adam. Le Seigneur dit à Adam. On continue, on se rapproche. Du jambon, hein. Le Seigneur dit à la femme, le Seigneur dit à la femme. Et vous savez ce qu'il y a au milieu du jambon? Le jambon, c'est ça. Versets 14 et 15. La descendance de la femme vaincra. La descendance de la femme vaincra. Alors, on les relit. Ils sont importants, ces versets. C'est le centre de la structure de tout ce récit de la Genèse. Ils sont là. Alors, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Alors, c'est pas forcément évident parce qu'on se dit, mais c'est juste l'histoire entre les êtres humains et les serpents. On s'entend pas très bien. En général, c'est vrai que quand on voit un serpent, on veut le tuer. Et donc, on pourrait se dire, bah, c'est juste ça. Mais non, ça va plus loin. Ça va plus loin. Et là où c'est énorme, c'est que c'est la structure entière du livre de la Genèse qui nous encourage à y voir plus. Regardez. Le livre de la Genèse est une entière généalogie. Ce n'est qu'une généalogie gigantesque, hormis le chapitre 1. Jusqu'au verset 3 du chapitre 2. Ça, c'est normal parce que c'est Dieu qui crée à partir de rien, donc ce n'est pas une généalogie. Mais ensuite, ce sont les hommes qui essayent tant bien que mal d'engendrer d'autres hommes à l'image de Dieu. Et ensuite, ben, tout le livre de la Genèse est une généalogie. Celle d'Adam, celle de Noé, celle de Sem, Cham et Japhet, Sem, Terah, Ismaël, Isaac, Ésaü, Jacob. Pourquoi? Parce que depuis Genèse 3:15, on cherche le descendant de la femme qui va écraser la tête du diable. la tête du serpent. On cherche cette descendance-là. Alors, vous trouvez peut-être que c'est artificiel, c'est tiré par les cheveux, mais ça va même plus loin. C'est la structure entière de la Bible qui est construite comme ça. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. L'Ancien Testament commence par une généalogie. Le livre de la Genèse est une généalogie entière. Eh bien, vous savez quoi ? Dans sa version juive, l'Ancien Testament se termine par une généalogie entière, le livre des Chroniques. Pourquoi ? Parce qu'on continue à chercher celui qui va écraser la tête du diable. On continue à le chercher désespérément. Et malheureusement pour eux, les Juifs continuent à le chercher encore désespérément. Mais il nous semble qu'on l'a trouvé. Il me semble qu'on l'a trouvé. Et c'est annoncé de façon tellement claire dans le Nouveau Testament qui commence par quoi ? Par une généalogie. Pourquoi ? Parce qu'on l'a trouvé, ça y est. On l'a trouvé, ce descendant d'Adam, qui va écraser la tête du diable. L'évangile de Matthieu commence par une généalogie. L'évangile de Luc au chapitre 3 commence par une généalogie qui remonte jusqu'à Adam. Et elle fait ce lien. Jésus est le descendant de la femme qu'on attendait tous et qui va écraser la tête du diable. On attend ce sauveur. Et c'est ce sauveur, cette attente du sauveur qui crée ce suspense dans toute la Bible. Alors, dans le Nouveau Testament, ça nous est présenté d'une façon très limpide par l'apôtre Paul. Je voudrais vous lire le verset où il le dit très clairement. Oups, ça y est. Ça parle de Jésus. Ce Jésus, il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Qu'est-ce qui se passe ? Quand le diable met en doute la parole de Dieu dans notre tête, quand il nous séduit par un discours mensonger et que nous ne résistons pas, nous chutons, eh bien, il y a un document qui nous accuse, qui s'enrichit d'une nouvelle ligne pour indiquer que là, nous n'avons pas résisté et nous sommes tombés. La Bible parle d'un document, un acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Nous sommes coupables objectivement par rapport à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus ? Ce Jésus, il a quelque chose de particulier, c'était Dieu devenu un homme. Il a toujours résisté au diable. Il n'a jamais chuté par rapport à la tentation du diable. Et il a fait quelque chose d'autre, c'est qu'il a donné sa vie à notre place sur la croix. Il a payé le prix de nos fautes. Et qu'est-ce que ça fait, ça ? Eh bien, en faisant ça, il désarme toute autorité, tout pouvoir. Il désarme le diable. Pourquoi ? Parce que c'est comme s'il avait cloué sur la croix ce document qui résume tous nos manquements. Vous voyez ? Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements. Quand le diable se pointe devant Dieu pour nous accuser, tu vois, Alexis, regarde Alexis, tu peux pas accueillir Alexis dans ton royaume parce que c'est quelqu'un de pas bien du tout. Quand le diable se pointe devant Dieu pour m'accuser moi, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Jésus dit, tu peux rien faire contre Alexis parce que j'ai annulé l'acte qui établissait ses manquements à l'égard de ta loi. Je ne peux plus être accusé. C'est comme si j'étais clean devant Dieu, parce que Jésus a payé le prix de mes fautes. Jésus a annulé l'acte de condamnation qui me concernait moi. Alors, les autorités, les pouvoirs dont il est question ici, c'est plusieurs mots pour, en tout cas, parler du diable. Ok ? L'iconographie chrétienne s'en souvient de cette histoire-là, que Jésus a écrasé la tête du diable. Vous voyez, deux extraits, la croix ici sur le diable, on voit même la pomme, le serpent et la pomme. Alors la pomme, vous savez que ce n'est pas une pomme, hein. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, symbolisé par une pomme ici. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair, le pied de Jésus sur cette statue, le pied de Jésus écrasant la tête du diable. Il est l'homme de la descendance de la femme qui va écraser la tête du diable. Il va annuler la condamnation que nous méritions en payant à notre place sur la croix. Ok. Je voudrais revenir aux généalogies. J'ai une question à vous poser. Est-ce que quelqu'un connaît la famille Nabéry? Et ce n'est pas dans la Bible. Est-ce que la famille Nabéry, est-ce que quelqu'un connaît Reuwi Nabéry et Jobal Nabéry, et quelqu'un saurait dire l'enfant qu'ils ont eu? Non. Est-ce que les jeunes veulent tenter quelque chose? Alors si je vous dis qu'ils ont eu une fille. Pardon? Non, c'est pas Leïla. Ils ont eu une fille qui s'appelle Padmé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un connaît le nom complet de Padmé? Hein? Padmé Amidala. Ça vous dit quelque chose? Ouais? Ok. Est-ce que vous savez avec qui Padmé Amidala s'est marié? Anakin Skywalker. Ok? Qui est devenu Dark Vador. Ok? Moitié Anakin, moitié Dark Vador. Est-ce que vous savez combien d'enfants ils ont eu? Deux. Ils s'appellent comment les deux jumeaux? Luke et Leia. Luke Skywalker et Leia. Ok? Est-ce que vous savez avec qui Leia a eu un enfant? Avec Han Solo. Comment s'appelle cet enfant? Kylo Ren. Ok? Là, je suis en train de vous faire 40 ans d'histoire. Hein. Attention. Hein. Ok. Dans 15 jours, au cinéma... Je suis pas payé par eux. Hein. Dans 15 jours, au cinéma, on va avoir la réponse à la question qu'on se pose tous. Qui, dans la descendance de Reuwi et Jobal Nabéry, va écraser la tête du mal? Et on pense, je pense, qu'il s'agit de Rey. Je pense qu'elle est la fille cachée de Luke Skywalker, mais j'en ai pas encore la preuve. Et j'attends avec impatience, franchement, dans 15 jours, je serai au cinéma, mercredi soir, pour voir si oui ou non, c'est bien cette jeune femme-là qui va écraser le mal dans la famille Nabéry. Vous voyez le lien? Vous voyez le lien? Non, vous ne voyez pas le lien. Ok. Dans la descendance d'Adam et Ève, on sait déjà qui est notre sauveur. Et c'est Jésus-Christ. Et finalement, ça, on n'en a rien à cirer, quoi. Non mais franchement, vous voyez, ma vie ne dépend pas de la généalogie Skywalker. Ma vie dépend de la généalogie d'Adam. Je voulais terminer en te demandant si Jésus est le Jedi de ta vie. Est-ce qu'il est ton seul espoir? Exactement comme, me semble-t-il, Rey est le seul espoir de la généalogie Skywalker ici. J'espère que je ne me trompe pas. Hein. En tout cas, pour Jésus, je ne me trompe pas. Sans Jésus, je suis perdu. Sans Jésus, tu es perdu. Alors je voudrais revenir à la question du jour. Je voudrais revenir à la question de départ. Comment gérer ta part d'ombre? Eh bien juste en te disant que déjà, Jésus-Christ est ton seul espoir. Si tu essayes de gérer ta part d'ombre en dehors de Jésus-Christ, tu n'y arriveras pas. Jésus a payé le prix de tes fautes à la croix. Il a payé le prix de mes fautes à la croix. Il a annulé le document accusateur. Le diable ne peut plus me l'accuser devant Dieu. Comment bénéficier de ça? Par la foi et la repentance, en faisant confiance à ce Jésus, en revenant à Dieu dans la repentance, un bien grand mot pour parler de reconnaître ses torts, demander pardon, changer de chemin. Il est tellement notre seul espoir, ce Jésus, que à cette période de l'année, tous les ans, on fait quelque chose dans quasiment toutes les églises du monde. On allume quoi? Une bougie. On est le premier dimanche de l'Avent. L'Avent parce que on est dans cette période de l'humanité un peu bizarre. On est coincé entre la première venue de Jésus il y a 2000 ans et sa deuxième venue. Parce que Jésus a promis qu'il reviendrait. Et quand il va revenir, il mettra un terme à ce que le diable fait encore aujourd'hui. Nous séduire, nous tenter, nous faire chuter. On est dans cette période, c'est un peu comme, vous vous souvenez de vos cours d'histoire, Seconde Guerre mondiale, après le débarquement allié. Vous savez, quand les alliés débarquent en Normandie, eh ben, la bataille décisive a été gagnée. On sait que le Troisième Reich est fini. Mais il a encore fallu un an de lutte, un an de résistance partout, en France et autour, pour faire définitivement tomber le Troisième Reich. Eh ben, dans l'histoire de l'humanité, nous sommes dans cette période-là. La victoire définitive, elle a été gagnée. La victoire cruciale, elle a été gagnée par Jésus, il y a 2000 ans, sur la croix. Et maintenant, on est dans ce temps de résistance. Nous devons résister au diable. Il nous faut résister au diable parce qu'il a déjà perdu. Mais il résiste un peu, le bougre, lui aussi. Et il nous en fait baver. Résistons. On est dans ce temps. Ça aurait été ridicule pour un Français de ne pas entrer dans la résistance une fois que le débarquement allié était fait en Normandie. Comme il serait ridicule pour nous de ne pas entrer en résistance contre le diable. Il a déjà perdu la victoire. Il ne fait que se déchaîner en ce moment, mais un jour, à l'avenue de Jésus, à la deuxième venue de Jésus, il sera définitivement mis hors course. Alors, on va l'allumer, cette deuxième bougie, pour se souvenir que Jésus est venu et reviendra. Et pendant chacun des prochains dimanches, jusqu'à Noël, on allumera une bougie supplémentaire. Jésus est ton seul espoir. Et si tu le savais déjà, si tu es déjà chrétien et si tu le savais déjà, eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est encore également ton seul et unique espoir. Quand on est chrétien, ben oui, le diable continue à s'accrocher à nous. Il continue à nous tenter, à nous séduire. Et trop souvent, je ne sais pas si ça t'arrive à toi aussi, trop souvent, peut-être que tu te crois seul dans tes luttes. Peut-être que tu comptes trop sur tes propres forces. Je ne sais pas si ça t'arrive de prendre des bonnes résolutions qui ne tiennent pas très longtemps, au final. Ben, je voulais te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est avec Jésus que tu vaincras le mal résiduel qu'il y a encore dans ta vie. Et il t'a donné au moins 3 outils pour lutter contre le mal, jeune Padawan. Il t'a donné sa parole, la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre ordinaire, parce que c'est un livre qui te transforme, c'est un livre qui me transforme. Alors, accroche-toi à la Bible. À chaque page, tu vas découvrir que Dieu t'aime. Et lorsque ton cœur va se remplir progressivement de Dieu, eh bien, ton cœur va se vider progressivement du mal. C'est une sorte de jeu de vase communicant. Il t'a donné comme deuxième outil la prière. La prière qui n'est pas un moyen de communication ordinaire. La communication avec Dieu a été restaurée grâce à Jésus. On peut s'adresser à Dieu directement pour lui demander des forces. Vous vous souvenez, Seigneur, Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le troisième outil que Jésus nous a donné pour lutter contre le mal dans nos vies, eh bien c'est l'Église. L'Église universelle, le rassemblement de tous les croyants, mais aussi cette Église locale. C'est un bon outil pour lutter contre le mal dans nos vies. On n'est pas là pour se juger mutuellement, on est là au contraire pour s'épauler dans notre lutte contre le mal. Et c'est en étant authentiques les uns avec les autres qu'on peut progresser ensemble, en priant les uns pour les autres, en confessant nos fautes les uns avec les autres. Personnellement, je suis accompagné par un ami qui est pasteur en région parisienne, que je connais depuis longtemps. Il m'accompagne, on s'appelle tous les mois, et je discute, je lui parle de mes luttes, il prie pour moi, voilà, de façon très simple. Alors je voudrais te proposer un truc. Peut-être que tu es venu ce matin avec des fardeaux immenses. Peut-être que tu as des casseroles, et on en parlait avec je ne sais plus qui, mais des casseroles, voire même des marmites derrière toi, que tu traînes et qui t'empêchent d'avancer. On voudrait te proposer de ne pas repartir sans avoir eu une opportunité pour les déposer ce matin, ces casseroles. Tu te dis peut-être que tu ne vaux rien et que Dieu ne peut pas t'aimer tel que tu es, mais ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Un tout petit exemple. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de lui, mais c'est une figure emblématique de l'histoire d'Israël. C'est un roi, il s'appelait David. Et ce roi David, il marchait avec le Seigneur. Et un jour, il a fait quelque chose d'horrible. Il a commis un adultère avec une femme, qu'il a trouvée très belle, qu'il a séduit et qu'il a amenée dans son lit. Et après, pour couvrir ce méfait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait assassiner le mari de la femme. De quelqu'un qui marchait avec le Seigneur, il est devenu un adultère et un assassin. Et ce gars-là, pourtant, ce gars-là, on en parle dans la Bible. Et il raconte son histoire. Et il raconte son parcours. Voici ce qu'il a écrit, ce gars-là. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Dieu accueille tout homme et toute femme qui revient vers lui en demandant pardon. Alors on va chanter deux chants. Le premier pour dire merci à Jésus parce que c'est lui qui nous a sauvés du mal. C'est lui qui a payé le prix de nos fautes pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Et le deuxième chant qu'on chantera pour nous encourager à recevoir le pardon gratuit de Dieu. Ensuite, on ira chercher les enfants pour chanter deux chants encore avec eux. À ce moment-là, pendant que les enfants rentreront, on a une équipe de priants qui va sortir et qui va se tenir à votre disposition dans le hall d'entrée, si vous le souhaitez. Et pendant les deux derniers chants du culte, et pendant la sortie aussi, pendant qu'on va continuer à parler, soyez libres, sentez-vous libres d'aller vers eux et de prier avec eux. Ils pourront prier pour vous. Ils pourront être une oreille attentive dans la confidentialité. Vous pouvez partager n'importe quoi avec eux. Ils seront là pour vous aider à cheminer. Si vous le souhaitez, bien entendu, il n'y a strictement rien d'obligatoire. Mais on voulait vous laisser cette possibilité-là, cette opportunité-là, si vous avez besoin de déposer vos fardeaux ce matin. Alors si peut-être que c'est un mode opératoire qui ne conviendra pas à votre histoire, mais sachez qu'on peut également être là pour vous à un autre moment. Il vous suffira de laisser vos coordonnées sur la table de l'accueil, dans le hall d'entrée, il y a un petit carnet. Vous laissez vos coordonnées en disant « je souhaiterais qu'on me rappelle pour prendre rendez-vous ». Il n'y a aucun problème, on peut également fonctionner comme ça. En tout cas, nous sommes beaucoup plus mauvais qu'on voudrait bien l'admettre, mais on est également beaucoup plus aimé que nous n'oserions l'imaginer, beaucoup plus aimé par Dieu, bien entendu. Alors, je voudrais terminer en disant, mais ne désespérez pas et ne baissez pas les bras dans votre lutte. Que la force de Dieu soit avec vous.